Je voudrais lire avec vous le texte, un texte bien connu qui est le texte de la tour de Babel dans Genèse 11, les versets 1 à 9. Genèse 11, les versets 1 à 9. Toute la terre parlait la même langue avec les mêmes mots. Partis de l'est, ils trouvèrent une veillée au pays de Shinéar et ils s'y installèrent, une vallée. Ils se dirent l'un à l'autre, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servirent de mortier. Ils dirent alors, bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les humains. Le Seigneur dit ainsi, ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Descendons donc et brouillons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. Le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre, ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babylone, brouillage, car c'est là que le Seigneur brouilla les langues de toute la terre, et c'est là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Prions. Seigneur, nous voulons encore te mettre cet entre tes mains, ce temps de message, que tu puisses encore nous parler, Seigneur, ce matin, que tu puisses ouvrir nos cœurs à ce que tu veux nous dire dans ton nom puissant. Amen. Alors, pourquoi parler ici aujourd'hui de la tour de Babel? Ici, alors je pense que je vais m'en remettre ici. Plus ça. Il faut savoir qu'ici, le texte de la tour de Babel intervient dans un contexte, celle de la violence. L'esprit de domination est rentré dans le monde par le fait que l'homme a voulu dépasser la limite pour dominer l'autre. On voit tout un contexte de violence. Cain a tué son frère par jalousie. On voit que les hommes étaient dans la méchanceté, ce qui a amené le déluge. Et toutes ces violences ont amené vraiment dans ce désir de dominer, d'être tout. D'Adam qui voulait être tout, qui ne voulait pas rester dans cette, accepter cette limite qui nous permet de rentrer en relation avec les uns les autres, mais qui a voulu être le tout, devenir comme Dieu. Alors, la volonté de Dieu n'était pas l'extermination de l'être humain. Et c'est pour cela qu'à partir de Noé, il choisit de répondre par la violence, par une autre manière, l'alliance. Celle de rentrer en relation avec nous. Celle en fait que dès le début, il avait créé la relation entre les hommes, entre eux, mais avec Dieu également. Et dans ce contexte, ça va apparaître la tour de Babel. Et on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il décidé de séparer les hommes suite à leur décision de construire cette tour? Pourquoi fait-il cela? Alors, si on prend au tout début, ils nous disent que toute la terre parlait la même langue. Ça peut semer confusion. Parce que si on regarde Genèse 10 juste avant, ben, on a plusieurs langues différentes. On a un monde riche et diversifié. Mais si le terme même langue, en fait, ne renvoie pas à l'idée d'un système unique de langage, donc il parlait qu'une seule langue, pas dans le sens linguistiquement parlant, mais plutôt dans le sens justement du langage, d'une parole unique. Qu'est-ce que ça veut dire un système, un langage unique? Ici, vous, on parle tous français, donc on pourrait penser, ben c'est bon, on parle la même langue. Pourtant, on n'a pas le même langage. On n'a pas le même langage. Un mot ne va pas vouloir dire la même chose pour l'un d'entre vous que pour moi. C'est pour ça que souvent on se comprend pas. Parce que parfois on entend que quelqu'un a dit un mot, on dit « Ah, il a dit ça », mais en fait c'est pas ce qu'il voulait dire. Et en fait, c'est intéressant ici, parce que le fait qu'ils aient le même langage, la même parole, montre qu'il n'y a pas de vis-à-vis dans le discours. Il n'y a aucune contestation. Tout le discours est imposé à chacun. Une parole, en fait, qui serait unique, c'est-à-dire un système, en fait, de communication qui ne laisse pas de place à la diversité. à la manière de chacun de s'exprimer. Ici, c'est quelque chose d'unitaire, mais dans lequel, en fait, il n'y a pas de diversité. Chacun est prisonnier du langage. Ça veut dire qu'on a une imposition. Voilà comment on doit penser. Et c'est comme ça que tout le monde pense de la même manière. Et on va voir pourquoi ça pose problème s'il n'y a pas de langage. Pourquoi ça pose problème dans le plan de Dieu si, en fait, il n'y a qu'une pensée unique. Ici, on perd donc la communication déjà authentique. Il n'y a pas de réflexion. Tout est déjà codifié. Il n'y a pas de place, du coup, pour la relation et l'alliance. Il n'y a plus de place pour la discussion, même avec Dieu. Ils disent qu'ils partent vers l'Est. Dans certaines traductions, ils auront partir vers l'Orient. L'Orient, ça a souvent une connotation négative dans la Bible. Ça montre, en fait, l'éloignement de Dieu. Caïn est parti vers l'Orient. C'est l'éloignement de Dieu. Donc on a déjà ce premier élément. Et puis on a un deuxième élément, c'est qu'ils veulent construire une tour. La construction d'une tour, ça témoigne en fait d'un projet de grandeur inestimable dans le but de démontrer la grandeur d'un peuple et sa supériorité sur les autres. Ici, en construisant aussi une tour, en construisant une ville, on voit qu'ils construisent, hein, ils construisent la tour, mais au départ, ils construisent aussi la, ils cherchent à s'y installer, à mettre des murs, des briques. On cherche à se renfermer sur soi-même. Il n'y a plus de vis-à-vis vers l'extérieur. On ne veut pas aller vers l'extérieur, on veut rester. Et en plus, la tour, c'est sacraliser ce projet. On veut le diviniser, on veut atteindre. On veut que Dieu protège ce peuple. Ils vont dire, construisons une tour et faisons-nous un nom. Alors si on regarde Genèse 10, justement, du verset 9 au verset 12, il nous est dit que Couch engendra ainsi Nemrod, c'est lui qui fut le premier héros sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant le Seigneur, c'est pourquoi l'on dit comme Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. Il régna d'abord sur Babel, Ébec, Ada et Cané au pays de Shinéar. Donc on voit qu'il y a un roi qui est là et qui règne sur. Et se faire un nom, c'est en fait ce peuple qui accepte d'être sous la servitude de ce roi. Il accepte d'être sous la servitude de ce roi sans vis-à-vis, sans parler, sans discuter. En fait, on est devant un projet de dictature totalitaire. C'est comme ça et pas autrement. Il n'y a plus de diversité. Il y a un pouvoir qui s'impose à chacun. Ils se font esclaves de celui-ci. Ils préfèrent éviter le risque justement de dispersion, d'être fragile, de s'ouvrir à l'autre. Ils préfèrent se renfermer et se faire esclaves. Et c'est ça quand on se fait esclave. On parle parfois d'être esclave du péché. C'est en fait on reste dans notre zone de confort, comme le peuple d'Israël qui préférait revenir en Égypte parce que c'est plus connu, parce que c'est plus à l'aise, parce qu'au final dans le désert, on ne sait pas toujours où aller. On ne sait pas toujours faire preuve de liberté. Dieu nous amène à la liberté, mais ça nous fait peur. Alors on préfère se mettre en esclavage. Oui, on souffre, mais au moins on sait ce qui nous attend. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de vie en fait. Et le Seigneur ouvre vers la vie. Et ici, se faire un nom, c'est contrairement parce que David aussi a voulu faire un nom, mais à faire un nom à l'Éternel. Provient ici des hommes qui veulent contrôler leur propre identité, légitimer leur pouvoir, et refusent de remettre cette identité dans les mains, de la découvrir, d'en faire un chemin avec Dieu. Ils espèrent éviter cette dispersion. Mais pourtant, est-ce que ce n'est pas contraire au plan de Dieu? Rappelons-nous qu'est-ce qui a été dit à Adam. Dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Multipliez-vous et remplissez la terre. Or là, on reste entre nous. On ne remplit plus la terre. On se renferme. on bâtit, on sacralise, on veut une pensée unique. Mais pourquoi Dieu donne-t-il cet ordre à Adam ? Il implique deux choses. La première chose, donc, c'est la multiplication des hommes sur la terre. En fait, c'est une collaboration de l'homme avec l'œuvre de Dieu. Son ouverture à l'autre, à Dieu lui-même, et aussi aux autres êtres humains. Il prend conscience qu'il participe à le processus de la vie et de la création de Dieu. Dieu fait participant l'homme. Quand il crée Adam, il lui dit « domine sur cette terre ». Le terme « dominer » n'est pas un terme de maintenir sous un pouvoir qui étoufferait les autres. C'est justement, en fait, aujourd'hui, on peut traduire ce terme par plutôt de l'intendance, prendre soin de la terre, de vraiment soit le gardien, soit l'intendant de cette terre. Donc, on prend conscience ici que l'homme est participant à l'œuvre de Dieu. Il multiplie la terre. Il continue en fait la vie qui a été initiée par Dieu. Il continue cette vie qui a été créée et cette vie de relation, parce que Dieu crée l'homme relationnel dans un désir de rentrer en relation les uns avec les autres. C'est ça l'alliance. On prend en fait conscience d'une alliance, d'un amour réciproque qui se vit avec notre Dieu, mais aussi avec les autres. On a parlé tout à l'heure de la gloire de Dieu, aussi de manifester en Jésus-Christ. Christ manifeste cet amour, ce désir de rentrer en relation avec nous. C'est ça son œuvre à la croix, rentrer en relation avec nous. Continuer à maintenir cette relation. Non pas une relation qui est basée sur une pensée déjà figée, comme le faisaient les pharisiens, qui eux déterminent par leur propre loi comment on rencontre Dieu, mais plutôt dans une rencontre personnelle d'un Dieu qui nous rencontre dans notre histoire. L'homme ici aussi est appelé à ne pas posséder. Tu quitteras son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc l'homme est appelé à ne pas posséder son enfant, à le garder auprès de lui, mais à le laisser vivre son chemin avec Dieu. À le laisser vivre son propre chemin avec Dieu. Et la deuxième chose que cela impliquait, c'est que le fait de remplir la terre, se disperser, implique de prendre le risque de développer de nouvelles relations, de nouvelles manières de vivre, de nouvelles cultures. On découvre. Il y a peut-être des voyageurs parmi vous. Moi, je suis quelqu'un de casanier de base. Donc quand vous me demandez de partir loin, après 2 semaines, j'ai envie de rentrer. J'aime bien, mais je me dis, ah, je suis tellement mieux chez moi. Il y en a qui aiment ça. Mais parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a ce fait, cette insécurité un peu. Ah, mais il me manque mes repères, je suis plus là. Mais en même temps, quand je découvre cette diversité, ça me permet, Dieu me fait grandir, me permet de découvrir d'autres choses, d'être jamais un produit fini, de continuer. Et comme je dis, le chapitre précédent témoignait de cette humanité diversifiée. Si vous êtes Genèse 10, vous voyez vraiment cette diversité de langues, de personnes qui remplissent la terre. En fait, en nous créant à son image, Dieu nous crée unique, nous crée chacun différent. Et l'apôtre Paul dira, il y a un seul esprit, un seul Seigneur, mais j'ai choisi les uns comme apôtres, les uns comme... L'apôtre Paul va parler de cette unité dans la diversité. Nous sommes tous les membres d'un même corps, mais dans le corps, nous sommes tous différents. La main n'est pas le pied, mais ils font partie du même corps. Et donc cette unité recherchée par Jésus, recherchée par Paul aussi, c'est une unité dans la diversité, un corps diversifié, où chacun prend sa place en tant qu'être unique avec Dieu, où chacun se découvre soi avec Dieu, mais découvre aussi l'autre. En fait, en voulant rester au même endroit, les hommes vont rechercher eux plutôt l'unité dans l'uniformité. Et c'est ça qui est contraire au principe créateur de Genèse 1. L'uniformité, c'est vouloir que tout le monde pense pareil. Vous savez, souvent dans les dictatures, les premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à supprimer les bibliothèques, supprimer les centres d'éducation, on va imposer une seule manière de penser, etc. Parce que on ne veut pas que d'autres puissent arriver avec une autre à nous contredire. On doit tous penser pareil. Dans certaines mêmes dictatures, on ne peut même plus quitter son pays. Parce que quitter son pays, c'est s'ouvrir à une autre pensée et peut-être voir que ce n'est pas qu'on peut vivre de manière autrement. Alors on veut imposer une seule manière de voir. Vous le voyez de plus en plus, la nuance a perdu. Aujourd'hui, regardez dans les médias, on impose parfois, il n'y a plus de débat. Le débat, il est déjà décidé, c'est comme ça que vous devez penser. On fait des émissions, mais il n'y a plus de vraiment débat. Ou si quelqu'un vient avec un autre, il y a 5-6 autres personnes qui sont là pour lui dire qu'en vérité, il n'a pas le droit de penser ça. Et ça va dans les deux sens. Hein. Même parfois ceux qui sont contre ce que met en place le pouvoir, eux-mêmes veulent réimposer leur propre pensée. Il n'y a plus cette notion de dialogue. Et le dialogue, il est fondamental. C'est sur ça que Dieu base, dès le début, cette relation avec l'homme. C'est sur le dialogue. Quand il vient rechercher Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui parler. Où es-tu? C'est l'homme qui refuse de lui parler, qui refuse d'entrer en dialogue avec lui. Quand Cain, à sa jalousie, vient lui parler, il vient lui parler de sa jalousie. Et encore, quand il a tué son frère, il revient lui parler. Dieu ne cesse de dialoguer avec l'homme. Dieu ne cesse de l'amener à s'ouvrir. Parce qu'il sait que si on perd ce dialogue, on perd cette relation, cette alliance qu'il désire avoir avec nous. Et de même, ce dialogue que Dieu essaie d'entretenir totalement avec nous, à chaque instant, il veut nous amener à nous-mêmes, entre nous, à ce qu'on puisse s'édifier les uns les autres dans cette richesse et cette diversité. Alors les paroles des seigneurs ici vont être porteurs de sens. Verset 6, il va dire « Voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous le même langage. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. » Dieu ici reconnaît que l'uniformité, c'est une marque de dictature où leur projet ne va plus rien leur empêcher d'arriver. Ils vont arriver à leur fin. Mais elle va se faire au détriment des individus, de leurs différences. Ils vont être sacrifiés au nom de ce projet. Et cette unité, au final, elle est fort individualiste, hein, l'unité qui est proposée. Et on peut remarquer au nom qui est donné, le nom Babel, donc qui fait référence à Babylone. Et Babylone, c'est l'incarnation justement de l'égoïsme, de l'orgueil, de la violence, de l'envie de dominer des autres, de l'envie de s'imposer à l'autre. Ici, ce n'est que la continuité de ce qu'on avait déjà vu dans le Jardin des Eden. La violence, l'égoïsme, l'orgueil ont en commun quelles sont des caractéristiques qui vont baser leurs relations sur leur propre personne et non pas sur la découverte de chacun. On ne prend pas en temps l'orgueil, l'égoïsme ne prend plus le temps de prendre en compte la vie de l'autre, prendre en compte sa personnalité. On peut aller jusqu'au refus même de comprendre l'autre, de le saisir au-delà de son étiquette et même de le juger directement parce qu'il ne rentre pas dans le mood qu'il faudrait. Mais le Dieu d'alliance, lui, vient justement comprendre l'autre, vient justement entrer en relation. Quand Jésus vient, il prend ce temps d'aller voir les personnes, de manger avec eux, d'entretenir une relation avec eux. Il est ému de compassion pour la foule. Une foule qui est martyrisée par les pharisiens, qui est mise en marche souvent de leur système religieux. Lui, il vient. Il leur redonne même de la valeur. Il redonne de la valeur à des personnes qui n'en ont pas, comme cette femme au père de sang, où il met ça en valeur, sa foi. Comme cette femme syrophénicienne, où il va aussi mettre en valeur sa foi. cette femme adultère, sachez, il va les amener à sortir de leur péché et en même temps leur montrer qu'ils ont une valeur. Ils sont vus dans son regard. En fait, en semant, ils sont la confusion. À mon sens, Dieu ne donne pas une punition à l'homme, mais une bénédiction. Celle de pouvoir vivre une vie de liberté. Il redonne cette chance à l'humanité d'être responsable de sa propre vie. Comme une liberté qui est donnée aux hommes. Et vous savez, il y a un texte dans le Nouveau Testament qu'on prend souvent pour dire que c'est l'anti-Babel. Quelqu'un a une idée? On y arrive bientôt. La Pentecôte. À la Pentecôte, les langues sont rassemblées. Mais non plus, regardez, dans l'idée d'une seule langue. Mais les gens entendent le message de Dieu dans leur propre langage. Ils sont étonnés parce qu'ils entendent, ils viennent de tout peuple et ils entendent le message. Ils entendent le message de Dieu. Ils se disent, mais comment ça se fait qu'on se comprend? Donc leur diversité n'est pas supprimée, elle est rassemblée en une unité qui est l'action que Dieu va faire, la résurrection, la mort et la résurrection, et qui passe par ici la venue de son esprit. Un esprit qui restaure chacun. Et puis ils vont entendre ce message de la résurrection, entendre ce message du Christ, ce message de l'évangile. Et donc leur diversité est rassemblée ensemble dans un Dieu qui transcende la culture. Et c'est cette communication justement qui va permettre aux apôtres d'approcher la richesse de chaque langage pour permettre une unité dans la diversité de chacun. C'est l'œuvre à la croix que Jésus aussi fait. En mourant pour nous et en ressuscitant, il délivre l'homme de sa propre condamnation, de cet esclavage. Cet esclavage qui l'invite à ne vivre que d'une seule manière, à être condamné. Aussi à tout cet esclavage qui existait, comme j'ai dit déjà, chez les pharisiens, qui sont en fait eux-mêmes esclaves de leur propre pensée, leur propre système. Et toute cette condamnation qui vit, où la personne peut croire que son péché le condamne, ne lui permettra plus jamais de vivre une autre vie. Jésus la change. Mais il permet aussi aux personnes de se découvrir, de vivre leur vie chrétienne en tant que personne unique. Chacun peut vivre sa propre rencontre avec Dieu. Je disais encore hier dans une formation, vivre sa propre rencontre avec Dieu, parfois ça fait peur parce qu'on se dit, ah, il n'y a plus de cadre. Si, Dieu garde un cadre. Christ met un cadre. Quand le peuple d'Israël, justement, est délivré de l'esclavage, ils peuvent vivre en tant que peuple dans une liberté. Mais il y a un cadre qui est mis par la loi. Mais ce cadre, c'est pas un chemin de train dans lequel vous devez juste fonctionner comme ça, non. C'est plusieurs sens interdits qui sont mis. Voici le cadre. Et dedans, il y a une telle diversité pour me rencontrer. Et on ne finit jamais de rencontrer Dieu. On le rencontre chaque jour. Mais à la croix, il nous permet, justement, non pas que notre différence soit un poids, soit une condamnation, comme c'était le cas de toutes ces personnes qu'il va guérir, où leur différence, leur péché était une condamnation, mais que cette différence, elle puisse être intégrée dans le Christ, elle puisse être évoluée avec le Christ, et qu'on puisse se découvrir en tant que chacun. Personne. C'est ce que l'apôtre Paul dira, il n'y a plus ni juif ni grec. Ce n'est pas une suppression de l'identité. C'est justement une valorisation de dire, ce n'est pas parce que vous êtes juif ou que parce que vous êtes grec. Quel que soit en fait, que vous soyez homme, femme, juif, grec, vous avez chacun accès au message du Christ. Vous avez accès au royaume de Dieu. Vous avez accès à l'Esprit. Vous pouvez vivre votre vie avec Christ tel que vous êtes. Alors, je vais essayer de terminer par juste trois petits points qui peuvent nous aider à impliquer, à pouvoir justement marcher dans cette diversité, dans son marché, dans cette diversité à laquelle Dieu nous appelle. Le premier, c'est de découvrir le mystère de l'autre. Alors vous savez, j'enseigne au CT, le CT c'est l'école biblique là où j'ai étudié la théologie, j'enseigne le cours de communication interculturelle. La première chose souvent, c'est de découvrir le mystère de l'autre, parce qu'en fait, chacun d'entre nous est un mystère, comme Dieu est un mystère. Le Christ est un mystère. C'est-à-dire qu'on a tous une profondeur que nul, sinon Dieu, ne peut jamais sonder. Seul Dieu peut sonder complètement cette profondeur. Même les personnes qui sont mariées depuis 50 ans, 60 ans, souvent pourront vous dire, je ne connais pas totalement ma femme, je ne connais pas totalement mon mari. Et tant mieux! Parce que c'est ça qui fait qu'ils continuent à vivre en relation. Si à un moment on connaît tout de l'autre, pourquoi continuer à vivre en relation? Je sais qui tu es. Et c'est ça qui nous fait continuer à vivre aussi la relation avec Dieu. Mais nos relations avec les autres, souvent, on ne voit pas ce mystère. On a beaucoup de stéréotypes, d'étiquettes, de préjugés. On cherche à enfermer les gens dans une case. Et au final, quand quelqu'un est impossible à saisir, ça peut même nous frustrer. Il faut qu'on le définisse. Et souvent, en fait, on se rend compte qu'on juge l'autre à partir de nos propres catégories, de nos propres pensées. Je regardais, j'aime bien le sport, je regardais une fois une émission de basket, je fais un peu les playoffs en NBA et tout, et je suivais une émission, et à un moment, il y a un joueur qui fait un mauvais choix. Et ils ont ce débat ensemble de savoir pourquoi il a fait ce mauvais choix. Et tous, ils viennent dire, moi je sais pourquoi il l'a fait. C'est parce qu'en fait, il se croit plus fort que les autres. Et ils ont tous une interprétation. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi personne n'a été lui demander pourquoi il a fait ce choix-là? Personne n'a été l'interviewer et lui demander pourquoi vous avez fait ce choix-là. Vous voyez, en fait, ils ont déjà interprété à partir de leur manière de penser ce qu'ils avaient fait. Et c'est ce qu'on fait tous. Souvent, on voit une action et on se dit, ben voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que pour nous, ça représentait cette action-là. Mais pas toujours. Le meilleur exemple biblique, c'est David, le roi David. Quand il est choisi par Samuel, au départ, il n'est même pas dans le... Il n'est pas là, il n'est pas dans les candidats. On se dit, non, c'est mort. Il vient quand même pour moindre un roi. Lui, on va le laisser là-bas, avec les brebis, ça va aller. Il n'est pas fait pour ça. C'est évident. C'est pas les caractéristiques. Mais pourtant, c'est lui que Dieu choisit. Dieu prend tout le temps à contre-pied. Gédéon, pareil. Mais non, je suis le plus petit de ma famille. Et en plus, ma famille, c'est déjà la plus faible de toutes les tribus. Donc en fait, je suis le plus nul des nuls. Et Dieu dit, non, c'est toi que j'ai choisi. Moïse, mais je ne sais pas parler, je bégaye. C'est toi que j'ai choisi. À chaque fois, il prend un contre-pied. Il prend un contre-pied parce qu'il découvre notre mystère. Il sait ce qu'il y a en nous. Il voit plus loin que notre regard. Et c'est la première chose, c'est rencontrer l'autre. Et vous savez, rencontrer l'autre, c'est tout autant se construire que de communiquer. En même temps que je rencontre l'autre, je me construis également. Je me découvre moi-même. C'est ça aussi pourquoi le Seigneur a mis ces relations diverses, parce qu'il sait qu'il nous construit aussi à travers la parole de l'autre. Combien de fois vous n'avez pas été encouragé, peut-être par la parole d'un frère ou d'une sœur, que vous y attendez peut-être même pas. Vous l'avez laissé parler, et Dieu vous a encouragé à travers elle. Laissons-nous découvrir les uns les autres. La deuxième chose, c'est qu'on peut respecter et intégrer les différences de l'autre. Le mystère de l'autre, c'est aussi le mystère de Christ. C'est quelque chose qui se dévoile au fur et à mesure, et dont on fait l'effort de comprendre. La mort de Jésus, elle se dévoile au fur et à mesure. Parce qu'à la fin, c'est même pas les disciples, c'est même pas les personnes qui ont suivi, qui vont découvrir. Seulement, c'est le terrain qui dit, oui, sûrement, cet homme était le fils de Dieu. Les disciples, c'est bien plus tard. Pour certains commentateurs, c'est même seulement à la Pentecôte qu'ils comprennent réellement tout le sens réel de cette prédication du Christ. Ça se dévoile petit à petit. Souvent, mes étudiants, en communication interculturelle, je dis comprendre l'autre dans sa différence, intégrer, reconnaître l'autre, ça ne veut pas dire être d'accord. Parce que souvent, on a peur, on se dit oui, mais non, ça veut dire qu'on doit être d'accord avec tout. Non. Ce n'est pas parce que je reconnais que l'autre a le droit à sa différence que je suis forcément d'accord avec la manière dont il agit. Mais simplement, je vais d'abord chercher à comprendre pourquoi il agit. Et si on ne fait pas ça, soit on risque de supprimer l'identité de l'autre. Regardez par exemple dans Acte 15. Acte 15, on a ce fameux concile de Jérusalem, cette discussion, est-ce qu'il faut circoncire ou pas? Mais en fait, on est justement dans un danger, celle d'empêcher ceux qui sont non-juifs d'avoir accès à l'évangile. On risque de supprimer leur identité. Quand j'étais à l'école biblique, on était là, il y avait deux personnes qui allaient rentrer, repartir. Alors on me demande, j'étais en stage pastoral, donc à ce moment, souvent quand quelqu'un fait son stage pastoral, « Ah oui, oui, comme tu vas être pasteur, tu peux prier. » Et je me mets à prier pour la personne, on prie, on finit, on remercie pour la prière. Je suis quelqu'un de très calme dans ma prière. Mais je suis dans une école pentecôtiste, donc... Il y a une personne pour qui ma prière était trop calme. Et elle dit, et là elle arrête, elle dit, bon c'était bien sympa la prière d'Arnaud, hein, mais non on va vraiment prier quoi. Il y a mon ami m'a regardé en rigolant, on l'a laissé prier, je me suis dit waouh. Parce que pour elle, c'était pas prier ce que je venais de faire. C'était pas prier. Mais à ce moment-là, je me suis senti attaqué dans mon identité. Et heureusement, Dieu m'avait déjà fortifié là-dessus. Mais vous voyez, comment d'une simple manière, on peut peut-être même dire à quelqu'un qui n'est pas vraiment chrétien ou qui ne prie pas assez, simplement parce qu'il ne prie pas comme nous. Ça peut aussi supprimer la liberté de penser, si on fait ça, ou faire passer l'autre directement comme quelque chose d'irrationnel. Ou privilégier aussi la victoire à l'apprentissage. On voit que les pharisiens, ils n'entrent jamais dans un dialogue avec Jésus. En fait, ils veulent toujours le piéger, avoir raison, essayer d'amener à le montrer qu'il a tort. Malheureusement, ils sont tombés sur Jésus. Donc, ils ratent à chaque fois. Alors que Jésus, dans son dialogue, il veut essayer de leur apprendre quelque chose. C'est pédagogique. Il veut leur amener à découvrir quelque chose. D'ailleurs, il donne souvent l'explication après parce qu'on lui demande. Parfois, il parle en parabole. Et puis, on lui demande, on dit « Ah, et... » Mais au départ, il veut vraiment les amener à découvrir. C'est important aussi de penser ce dialogue. Pourquoi ? Parce que il y a une phrase que je dis aux étudiants, c'est que prendre le risque du conflit, les amener plutôt à prendre justement le risque du conflit plutôt que de la compréhension innée de l'autre. Ça veut dire, j'explique ma phrase, ça veut dire que souvent on a peur de dialoguer parce que ça peut nous rentrer en conflit. Et ça, c'est un truc que l'apôtre Paul avait bien compris. On va dire, supportez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Il sait que ça peut rentrer en conflit dans l'église, mais il les invite tout le temps, continuez à exhorter. Parce que au moment où vous restez, vous n'exhortez plus, on ne se supporte plus les uns les autres, on ne se découvre plus les uns les autres, c'est là que l'ennemi commence à rentrer. Tu vois, il a dit ça, tu vois, il a pensé ça. Allez, tu vois bien qu'il n'est pas avec toi. Et on commence à plus dialoguer et à juste à dialoguer avec nous-mêmes et avec ces petites voix qui nous parlent. Je suis coordinateur au camp de Genneval pour les ados. Et je dis souvent au moniteur, quand vous avez un problème, dites-le. On a une réunion, on en parle. Et parce qu'une fois, j'ai pu voir que quand on n'en parlait pas, à la fin, ça explose. Et ça détruit toute l'unité. Mais si on est capable d'en parler, si on est capable de prendre ce risque d'oser, alors là, on peut en retirer quelque chose. Plusieurs fois, Dieu va appeler « Venez et discutons ». Jésus n'avait pas peur du conflit. Parce qu'il sait que c'est ça qui allait amener à une plus grande compréhension de qui il était. D'ailleurs, il refuse tout le temps les dialogues directs. Quand les esprits viennent et disent « Moi, je sais qui tu es », il leur recommande de se taire. Venez me découvrir. Ne m'enfermez pas directement dans une boîte. Et la dernière chose, c'est apprendre à écouter. Souvent, on dit tous « Mais je l'ai dit ». Oui, mais est-ce qu'on a écouté? Et c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas juste dire. Ils ont écouté. Écouté le message de l'Évangile. Écouté ce qui se passait. Écouté après la prédication de Pierre. Et ils ont répondu à cette prédication. Est-ce qu'on écoute? Vous savez, écouter, la Bible, le terme écouter, que ce soit dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau, elle envoie l'idée aussi de se laisser intégrer, de comprendre. Écouter, c'est on entend, et puis on laisse cela nous parler. On intègre, on médite. Souvent on va dire méditer la parole de Dieu. Méditer, c'est ça, c'est on entend la parole et on réfléchit dessus. On la laisse intégrer. Est-ce qu'on est capable d'écouter? Entendre, oui, ça on le fait tous. Mais écouter réellement. Quand j'étais au départ responsable des jeunes, quand il y avait des jeunes qui venaient pas une ou deux fois, souvent j'avais toujours tendance à leur dire « Oh mon, tu viens pas !» Mais c'est vrai que plus tard, je me suis dit « Mais je leur demande pas pourquoi !» Et parfois, on peut en arriver à ça. J'ai eu dernièrement une personne qui est arrivée à notre église il n'y a pas longtemps. J'ai vu tous les fois où elle était brisée parce qu'elle disait que chaque fois qu'elle était malade, on lui demandait jamais comment elle allait ou quoi, on lui reprochait juste de pas être là le dimanche. Écoutez ce que l'autre a à nous dire. La Bible nous apprend à écouter de manière attentive, à agir. Regardez Proverbe 1:5 qui dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Regardez même dans les débats, les personnes, même si j'aime pas les débats, parce que justement le débat, le but c'est toujours de gagner, c'est jamais de rentrer vraiment dans une discussion, mais regardez, les personnes souvent qui vont le mieux s'en sortir, c'est les personnes qui savent écouter. C'est pas les personnes qui restent focalisées sur leur discours. C'est les personnes qui, j'ai entendu ce que vous avez dit ça, ça, ça et ça, voilà ce que moi j'en pense. Est-ce que nous, on sait écouter? Écouter ce qui nous entend. Et quand je dis écouter, ça veut dire aussi faire preuve d'empathie, essayer de comprendre. C'est à la Pentecôte, l'écoute, elle a permis de bâtir une église sur une diversité d'un peuple riche. Elle a permis de dépasser les préjugés qui accompagnaient la manifestation de l'esprit dans le cœur des gens. Elle a permis à de multiples nation de recevoir le message de l'Évangile, l'écoute. Ils ont entendu, ils ont été étonnés, mais ils ont écouté. Et on voit qu'à la Pentecôte, certains n'ont pas écouté. Ils ont jugé. Ils doivent être ivres. Ceux qui ont dépassé le préjugé, qui ont dépassé la pensée unique qui devrait leur dire que forcément, s'il se passe ça, c'est qu'ils sont ivres. Eux ont pu entendre le message de l'Évangile. Ceux qui sont restés bloqués aux préjugés, à l'apparence, sont restés en dehors. Et je finirai ici. Dieu nous appelle à la communication. Au dialogue. Le Christ, à la croix, nous a permis d'entrer en relation avec Dieu, dans une relation de dialogue, non pas qui nous amenait à une seule manière de vivre l'identité, nous dire à une seule identité, mais plutôt à une diversité de manières de vivre l'identité chrétienne. L'identité en Christ. De découvrir notre identité en Christ. De découvrir à quoi Dieu nous appelait, qui nous sommes en lui. Mais aussi de découvrir qui sont les autres. Et de maintenir cette diversité. D'être une église comme à la Pentecôte qui a maintenu cette diversité et qui plus tard l'a continuée parce qu'il dira qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la prière et dans la communion fraternelle. Donc, s'ils ont persévéré dans la communion fraternelle, ils ont persévéré dans la rencontre des uns des autres. Prions. Seigneur, merci parce que tu es grand. Comme il a été dit, tu es majestueux. Et dans ta grandeur, Seigneur, tu nous as créés chacun unique, précieux, beau à tes yeux. Merci parce que chacun est une perle rare, Seigneur. Et tu nous amènes à nous découvrir en toi. Tu nous amènes à pouvoir discuter, à pouvoir s'accorder ensemble, Seigneur. Et que même dans nos désaccords, Seigneur, tu nous permets de vivre cette diversité. Tu nous permets de continuer à avancer ensemble. Seigneur, que nos désaccords ne soient pas une source d'arrêt du dialogue, mais justement une source d'avancement avec toi. Seigneur, fais-nous découvrir qui tu es encore. Aide-nous à te comprendre encore à chaque instant. Et fais de nous une église, diversifie une église qui s'aiment les uns les autres pour ce qu'ils sont et ce qu'ils vont devenir. En ton nom puissant. Amen. Amen.